Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 181. Mon nom est Paul Andrew et je suis avec mon père.
Ah, c'est bizarre, hein? Il manque vraiment un morceau quand on fait ça juste à deux. Tu manques les « Et Pascal Plante! »
Ben non, Pascal Plante, qu'on salue, qui est probablement en ce moment avec l'équipe du Wapikoni Mobile, qui fait son mentorat. Et en même temps, en fait, il vient tout juste de remporter au Rhode Island Film Festival le prix du meilleur réalisateur.
Tu sais, quand même, là.
C'est quand même fucking nice.
Genre, t'es hot, Pascal. T'es vraiment hot. Je sais pas si tu vas écouter l'épisode, là, mais bravo, là.
Une belle année pour Pascal, qu'on salue. Cette semaine, Rémi, en fait, c'est avec juste toi et moi, c'est un épisode plus intime, et on va surtout parler, en fait, des festivals, parce qu'on est vraiment en pleine période des festivals. On vient à peine de sortir de Fantasia, après 6 mois.
C'est quoi la période de festival? C'est comme jusqu'au RVCQ, fait que c'est genre 8 à 10 mois, là. C'est 8 mois, à peu près, la période des festivals. Il y a comme un 4 mois off.
Non, moi, je trouve que passer Cinémania, là, après ça, c'est genre les Oscars, là, pendant comme 3 mois.
Ouais, ok, puis... ok.
Puis les fêtes, puis les Star Wars, puis les films de fin d'année. Mais voilà, donc, toute plein de nouvelles, en fait, de toutes sortes de festivals, peut-être tous d'envergure différente. Notamment, on a des nouvelles du prestigieux 42e Festival des films du monde de Montréal.
Yay!
Puis ça, tu sais, on en parle à chaque année. Et tu sais, pour être fair aussi, pour comme être transparent, moi j'ai travaillé plusieurs années au cinéma L'Impérial, le lieu principal du festival. Et là, ce qui est assez quand même drôle, c'est depuis quelques années, les seules raisons qu'on parle du Festival des films du monde, c'est pour son état, c'est pour sa survie, plus que pour les films. Et là, un peu par hasard, tantôt, je suis allé sur le site web du FFM, le très beau ffm-montréal.org, où la moitié des pages sont vides ou pas à jour. Et là, je suis allé comme là, un peu par hasard, pour le fun, par curiosité, parce que techniquement, le festival est dans 10 jours, Rémi Fréchette, à l'heure où on enregistre.
Oh my god, je suis excité.
Et là, ça, là, j'étais comme, ça, j'en ai pas entendu parler beaucoup cette année. Et là, en fait, savais-tu qu'à chaque jour, depuis une semaine, il y a une section du festival qui est dévoilée sur le site web du FFM.
Ok, pour nous hyper, genre pour me mettre dans le mood que le festival commence bientôt.
Ouais, c'est ça.
Ah,
puis là,
c'est super, bravo Serge.
Et puis je suis allé faire des recherches, puis tu sais, c'est comme chaque page du festival, okay, tu sais, les 6 sections qui ont annoncé, dont la compétition mondiale aujourd'hui, tu sais, c'est pas rien, là, la compétition mondiale du 42e Festival des films du monde, festival de catégorie A selon la Fédération internationale des producteurs de festivals de films. Eh bien, il y a un total de 0 partage sur les médias sociaux. Tu sais, il y a comme les petits outils en bas avec le petit compteur, genre, pour comme compter comment de partage Twitter, Facebook. 0 sur les 6 sections, Rémi. Tu sais, il y a une section, là, c'est le Festival du cinéma chinois, OK? Il n'y a aucun Chinois qui a partagé cette page-là. T'as rendu compte? Il y a un...
Ouais, c'est ça, c'est comme... Tu sais, au moins, tu te dis, je vais à un festival au Québec, au Canada, plutôt, là. Je vais faire un effort pour faire un peu de promo, puis tout le monde s'en fout, là.
Hey, c'est incroyable, là. Je suis allé voir, puis c'est parce qu'aussi, c'est que le FFM, ça aide pas, tu sais. Il y a eu aucun communiqué de presse annoncé aux médias. Tu sais, nous, avec Point de vue, justement, on est dans les listes d'envoi, tu sais, des différents médias. Des différents festivals et événements et compagnies de distribution. On n'a rien reçu. Il y a sur leur site web, c'est-à-dire sur leur Twitter et sur leur Facebook, ils ont des comptes officiels, le Festival des films du monde, suivi par plusieurs milliers de personnes. Le dernier tweet de la page du FFM date de février. C'est un appel à soumission de films en caps lock, mais sans lien cliquable. C'est juste comme soumettez un film, puis il n'y a comme pas de lien.
en
majuscule.
Hein? Comment ça?
Avec 2 likes, ça date de février, c'est le dernier tweet du FFM.
Avec 2 likes, c'est genre... J'allais faire une joke, qui a liké ça? C'est sûr que c'est ironique, là. Genre, tu peux pas apprécier ça pour vrai.
Mais tu sais, ça a pas de bon sens. Puis
Mais est-ce que tu penses que c'est Serge Lozic qui s'est dit, si je le mets en caps lock, c'est comme si je criais, fait qu'il y a plus de monde qui vont m'entendre. Tu sais, c'est qui fait la promotion des médias sociaux? C'est qui s'occupe des médias sociaux puis d'updater le site web? C'est pas Serge Lozic. Y'a-tu encore des employés qui s'occupent de ça?
Ben c'est ça, c'est que là, je pense qu'il y a plus personne qui s'en occupe. T'sais, pis si ça se trouve, t'sais, peut-être qu'ils ont perdu le mot de passe ou je sais pas quoi. Mais t'sais, c'est tellement absurde, là. T'sais, c'est ubuesque, là. Comme, honnêtement, à un moment donné, il va y avoir un film sur le festival, là, c'est sûr, puis ça va être bon, ce film-là, ça va être drôle, là. J'ai hâte de voir ce film-là. Mais bref, tout ça pour dire que le 42e Festival des films du monde commence dans 10 jours. J'ai partagé sur mon compte Twitter et Facebook la programmation. Je ne sais pas comment on fait pour s'acheter des billets, parce que le lien sur le site web est comme plus à jour. J'imagine qu'à partir du 23 août, on va pouvoir aller à l'Impérial, point d'interrogation. Je le dis au conditionnel dans ma voix parce que j'ai aucune idée, ça va avoir lieu.
Est-ce qu'il y a gardé des parts dans l'Impérial ou il est comme plus du tout propriétaire?
Je pourrais pas dire exactement. Là. Je connais pas toutes les. Parce qu'on sait qu'il y a quelques années, Québécois a mis plusieurs millions pour préserver la salle, l'Impérial.
Oui, puis l'utiliser, là, je peux juste faire un exemple. Il y a eu un dévoilement pendant Fantasia, c'était le film, je vais utiliser ça comme croche, là, mais c'était le film « Pourquoi l'étrange Monsieur Zola que s'intéresse-t-il autant à la bande dessinée? Ouais. » de Yves Simoneau, qui a eu une réédition de Québécois, puis qui a été dévoilé dans le cadre du programme Éléphant. Puis toute la salle était décorée avec l'esthétique du film, qui est pas un classique, c'est un film ultra obscur. Il avait quand même fait des banderoles, des posters, il avait décoré le miroir en arrière du guichet où il y a le popcorn. Il y avait des BDistes qui étaient là, il avait comme tout décoré la salle pour que ça fitte pour un public, c'est un petit public, on s'entend, là. Donc il avait vraiment pris d'assaut la salle pour ce film-là qui est super obscur puis qui était une réédition. Mais c'est très cool, là, parce que c'était un bon film puis ça valait la peine de le présenter dans ce contexte-là. Mais c'est quand même particulier de voir tout l'argent qu'ils mettent autour de la salle pour essayer de créer des événements puis la restaurer.
Ben, tu sais, parce que c'est quand même une des dernières salles à Montréal avec ce cachet-là, avec ce type-là, une salle centenaire. Et on s'entend que, tu sais, c'est un peu... Je peux pas confirmer ça parce que, je veux dire, je suis pas dans les plans de Québécois, puis je suis pas dans le CA de Québécois, puis je sais pas ce qui se passe exactement, mais tu sais, ça ressemble vraiment à... Eux, ils restent passifs pour l'instant. Et en attendant la démission / à ce que Serge Zé soit trop vieux pour continuer à s'occuper du FFM, pour relancer...
Il est déjà trop vieux avec ta... Oui, tant qu'à moi, il est déjà trop vieux. Là.
Oui, ben, non, mais ce que je veux dire, c'est que au niveau de sa santé, parce qu'il est quand, un âge vénérable. Et donc, je suis pas mal sûr qu'une fois que Serge Zé sera plus dans le décor, le Québécois va comme reprendre / rebooter le FFM. Là. Mais pour l'instant, ils sont très discrets, puis ils parlent pas vraiment beaucoup de cette association-là. Et quand il y avait eu l'annonce justement des millions investis dans la salle, il avait précisé que c'était pour la salle impériale et qu'il ne donnait pas d'argent pour le FFM. T'sais. Le FFM qui est criblé de dettes. Et c'est uniquement parce que le 1er août, Serge Zé a réussi à accumuler 32 000 $, ce qui était le minimum pour comme, assurer sa dette à Revenu Québec là, pour pouvoir opérer légalement cette année le festival. En tout cas, le festival des criblés de dettes, ça va pas bien. Dans 10 jours, il va peut-être y avoir un festival avec notamment en compétition mondiale le dernier film de Hideo Nakata, le seul réalisateur que j'ai reconnu dans la sélection, qui était vraiment cool il y a 15 ans. Là, il a fait Ringu.
Ah, c'est le réalisateur de Ringu?
Ouais, c'est ça, qui fait son nouveau film. Mais tu sais, il fait
fait aussi l'excellent Cercle 2, la version américaine de Ring 2. Excellent, avec des chevreuils en 3D, puis... non, c'est vrai. Ben, c'est vrai qu'il l'a fait, mais c'est pas vrai que c'est excellent.
Ouais, donc, voilà. Sinon, un autre festival beaucoup plus petit, en guillemets, c'est la section Film Pop, en fait, qui est comme une branche de Pop Montréal. Pop Montréal étant vraiment très connu, mais pour les cinéphiles que nous sommes, donc on va s'intéresser à Film Pop, qui est donc un petit volet d'une dizaine de films d'hier et d'aujourd'hui. Et, fait intéressant, en fait, ce sera la première manifestation au nouveau cinéma moderne.
Oh!
Que ça fait plusieurs mois qu'on sait que c'est en construction. Là, le café du cinéma moderne est ouvert, le bar également. Et en septembre, en fait, à Film Pop, qui a lieu, c'est ça, du 26 au 30 septembre, eh bien, on pourra aller voir ce que nous réserve ce nouveau cinéma. Et parmi cette sélection de films, en fait, il y en a vraiment un que je veux souligner parce que c'est assez fucké comme projet. Je trouve ça vraiment cool puis audacieux. Tu connais le rappeur juif So-Called?
Oui, oui.
Ouais, bon, il y avait un documentaire sur lui une couple d'années qui était quand même très intéressant. Puis je connais pas trop sa musique, mais tu sais, je sais que c'est un personnage assez excentrique, tu sais, qui a fait plein de projets, un artiste multidisciplinaire. Et tiens-toi donc, Rémi, le jeudi 27 septembre au cinéma L'Amour.
Oh!
Aura lieu la première mondiale du film pornographique gay The House Sitter, le premier film pornographique de So-Called.
Hein?
Ouais.
Quoi?
Donc,
je me demandais où t'allais mettre la corrélation avec le rappeur, mais
ben, c'est lui qui a réalisé le film.
C'est assez direct qu'il a ouais. réalisé, c'est bon. Ouais. Ben, il avait fait un événement l'année dernière avec How to Talk to Girls at Parties au cinéma L'Amour, justement. Mm-hmm. Ça m'avait fait très mal de le manquer, surtout après avoir vu le film. J'ai compris tout l'attrait de présenter ça au cinéma L'Amour, mais ouais, c'est, c'était pas nouveau qu'ils font des collaborations avec le cinéma L'Amour.
Ben oui, moi j'ai même vu il y a quelques années Showgirls au cinéma L'Amour de Paul Verhoeven dans le cadre de Film Pop.
Ah oh, ouais.
Ouais, c'était vraiment cool. Donc, moi je pense que ça vaut vraiment le détour. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Donc, voilà. Alors, toutes les informations, vous irez voir ça sur le site web de Pop Montréal. Et ensuite, aussi, les Perséides, Rémi Fréchette, pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans le coin de Percé. C'est très bientôt, en fait. C'est du 16 au 26 août. Et c'est plus d'une centaine de films là, qui sont présentés là-bas. Vous irez voir toutes les infos au perseide.ca.
C'est cool des festivals qui peuvent être un peu plus à l'écart de Montréal pour permettre aux gens de voir les films, parce que ça arrive vraiment pas souvent quand on y pense. Là.
Mm-hmm.
C'est assez important d'avoir ce mandat-là de diffuser un peu la culture ailleurs que le centre du Québec. Là.
Oui, tout à fait. Sinon, Rémi Fréchette, nous autres-mêmes à point de vue, on a un partenariat en fait en ce moment avec Festival Scope et Le Carnot. On avait fait un concours il y a quelques jours pour faire tirer des places sur la plateforme Festival Scope, qui est une espèce de... Tu sais, Festival Scope, pour ceux qui ne connaissent pas ça, ça a été divisé en deux branches il y a comme quelques années maintenant. Festival Scope Pro, pour vraiment les gens de l'industrie, et Festival Scope standard pour le grand public. Et ce qu'ils font, Festival Scope, c'est qu'ils font un peu la tournée des festivals dans le monde. Ils participent avec vraiment beaucoup, beaucoup de festivals et offrent des billets gratuits ou payant dans vraiment comme des quantités limitées pour toutes sortes de gros événements dans le monde. Et ça, c'est vraiment cool. Et nous, par exemple, dans le cadre de Le Carnot, c'est une sélection qui s'appelle Cinéaste du présent. Je pense que c'est 7 films au Canada qui sont disponibles. Et c'est gratuit dans la limite des billets disponibles, parce qu'il faut quand même se prendre une place et écouter le film sur le site web ou sur l'application qui est disponible sur iPad. Et ça nous permet justement de profiter de films comme ça de Le Carnot le lendemain de leur première mondiale. Donc c'est quand même vraiment cool pour se faire un peu une idée, tu sais, de parce que c'est pas tout le monde qui peut se rendre chaque année à Le Carnot, n'est-ce pas Rémi Fréchette?
Non, c'est pas tout le monde.
Donc Rémi Fréchette, avant
oui,
toute cette salve d'informations et d'événements et de trucs à rajouter à notre agenda, on parlait de Fantasia.
On parle toujours de Fantasia, on parle de Fantasia tous les mois, à toutes les années, partout.
C'est vrai, c'est vrai. Dernier podcast, on a fait un peu un bilan à mi-chemin, depuis on a eu le temps de voir le reste du festival. Moi, j'ai pas eu le temps vraiment d'y aller beaucoup, mais par contre, j'étais présent pour un événement qui me tenait chaud au cœur, c'est-à-dire la première mondiale de Montréal d'Eden. La première internationale, la première nord-américaine, on va dire ça comme ça.
Ouais, ouais.
De Montréal d'Eden, dont tu es l'instigateur, le producteur. C'est donc une quinzaine de sketchs, 18 réalisateurs, une centaine de comédiens, une centaine de techniciens. Et ce film-là, c'est ça, c'est une anthologie, donc un peu comme on parlait rapidement de Paris, je t'aime, tu sais, mais plus sur le mode horrifique, évidemment. Ben, c'était cool!
Sur le mode kino aussi, là, pendant, ouais. C'était sur le mode, on l'a fait avec 30 000 $, donc avec vraiment un budget très très limité, les gens payaient ce qu'ils voulaient pour leur segment, on avait des commandites pour financer le reste. Donc c'est ça complique un peu les choses, mais je suis bien content, on s'est rendu au bout là, donc on a pu enfin le présenter au public montréalais, effectivement.
Puis c'était pas mal une salle comble, hein, c'est dans le hall, il devait avoir 700 personnes bien à côté.
C'était pas mal sold out, oui. Il y a des gens qui n'ont pas pu rentrer, ce qui est triste dans un sens, mais qui me fait vraiment chaud au cœur, les gens étaient au rendez-vous. Puis il y aura d'autres occasions de le voir à Montréal, c'est certain qu'on va réorganiser ça.
Tu sais, j'étais vraiment touché, bon évidemment parce que je te connais puis je connais beaucoup de gens aussi qui ont travaillé sur le film, mais ce que dit Marc Lamotte, co-directeur de festival quand il a présenté le film, j'ai trouvé que ça sonnait vrai quand il disait que c'était plus qu'un film, c'était un manifeste là, d'une nouvelle génération.
Ouais, ouais.
Puis c'est clair qu'il y a ça un peu, parce que vous êtes à peu près tous des réalisateurs un peu de la relève, qui est en ce moment en train de jongler en différents dépôts, demandes de subventions, c'est ça la vie d'un cinéaste là, au Québec en 2018. Et donc, c'est beau de vous voir aller avec un film comme ça, tu sais, vraiment porté par la passion uniquement. Puis bon, Rémi, c'est pas ton premier projet non plus que tu fais un peu, tu sais, sans attendre. C'est un peu.
À chaque fois, t'es un peu impatient quand même. C'est le dernier. Non, mais à chaque fois, je me dis, bah, c'est le dernier, là, là le prochain, là, je vais avoir plein d'argent. Puis là, j'ai pas d'argent, puis là, je fais, oh fuck off, j'en fais un autre pareil, là. Tu sais, c'est. Je vais continuer à en faire, même si j'ai pas de cash. Fait que. Faudrait pas que je dise ça à Sodec, là. Écoutez-moi pas, s'il vous plaît. Mais tu sais, je vais continuer anyone à en faire. C'est une drogue, c'est une maladie, là. Mais effectivement, là. C'était une excuse de le faire à plusieurs aussi, de pouvoir se rendre au bout d'un projet comme ça en collaboration. Je pensais que ça serait plus simple, mais non, ça c'était pas plus simple. Probablement que faire un long métrage tout seul, pas d'argent, ça serait aussi aussi compliqué, sinon même moins, en fait. Là.
Puis d'ailleurs, le Q&A, c'était très drôle. Parce que t'as quelqu'un du public qui demande, tu sais, est-ce qu'il va y en avoir un autre? Est-ce qu'il va y avoir peut-être Québec dedans ou des trucs comme ça? Puis toi, tu dis aussi qu'à Bruxelles, tu te faisais demander, on pourrait en faire un ici, puis... À chaque fois, ta réponse, c'est un peu comme genre, ah, si vous voulez le faire, faites-le. Moi, je suis comme plus capable.
Il n'y en aura pas. C'est ça, là. Si j'avais de l'argent, si quelqu'un dit, hey, c'est tellement génial ton concept, v'là, ça vaut bien $1 million. Tu sais, je ferais comme, ah, ben oui, je vais en faire un parfait maintenant. Ça va bien aller, puis je vais le faire avec le grand sourire. Mais refaire un dans ce mode-là, c'est juste drainant, puis c'est sûr que c'est un film imparfait, puis. Dans ces contextes-là, pas d'argent, avec tout le monde a carte blanche, c'est sûr que le film fini est parfait. Donc c'est quand même beaucoup à prendre sur les épaules pour au moins que le film ait l'air de quelque chose de substantiel puis que le public en ait pour leur argent, mm-hmm. malgré tous ces facteurs-là qui amènent ça vers le bas de base. Là. Donc de pouvoir renverser la balance puis amener ça vers le haut plutôt, les caractéristiques du film. Mm. Ouais.
Puis c'est le fun comme genre d'expérience parce que moi, pendant que j'écoutais le film, je me disais... que je voyais vraiment beaucoup de parallèles avec, dans le fond, la programmation d'une séance de court-métrage. Puis ça, c'est ce que tu fais à Fantasia depuis 2 ans maintenant. Puis je me disais, parce que oui, il y a une certaine trame narrative qui enveloppe le tout, mais on s'entend qu'il y a quand même plusieurs segments interchangeables, tu sais. Plusieurs segments indépendants, tu sais, qui n'ont pas de personnages récurrents. Donc, je me disais que le montage de ce film-là, ça a dû déjà être long. Et tu as sûrement dû jongler souvent à genre, justement, comme enlever un segment, le mettre plus tôt, déplacer un autre truc. Tellement. Puis je me demande s'il n'y a pas eu, genre, des espèces de guerres, peut-être, d'égo au montage, ou tu sais, avec les. Comme quand tu as comme 15 segments, puis il faut que tout le monde soit content, ça va quand même être assez compliqué.
Ouais, puis la personne qui veut pas être exactement être après tel autre segment, parce que elle a son feeling, ça marche pas. Mais tu sais, au final, les gens, ils ont comme abdiqué, je pense, puis ils ont juste fait OK, on te fait confiance, fais ce que tu veux. Puis j'avais j'avais l'air d'un psychopathe chez moi, là. J'avais une espèce de board avec des post-it dessus avec tous les noms des segments.
Tu sais, avec des grosses lignes rouges, là, puis genre.
Ben, exact, c'était vraiment ça. Puis avec les transitions aussi, parce que des fois, des transitions, c'est des drones. Des fois, c'est des shots au sol où on voit des commerces du quartier. Donc, il fallait que je trouve la bonne balance là-dedans. Puis la version qu'on a présentée à Bruxelles, en fait, en avril, le pacing du film est totalement différent. Il y a des plans qui sont pas là entre les segments. C'est vraiment différent. On a fait un reshoot entre Bruxelles puis Fantasia pour avoir des beaux plans au sol puis aller chercher les commerces qui manquaient. Par exemple, Saint-Viateur Bagel, fallait le voir. Il y a des trucs que c'était ultra important à voir puis on les avait pas dans le code précédent. Donc c'est ça, même après Bruxelles, après la première projection publique, j'ai continué à jouer dans le film puis à changer des bouts de place. Je l'envoyais à des amis qui m'ont donné des commentaires. J'ai utilisé ces commentaires-là pour refaire un ordre logique dans le film. Donc voilà, majoritairement, s'il a fallu un jour que je me dise « Bon, là, il est fini. Là, je vais être satisfait. Peut-être que le mois prochain, il y a des trucs que je changerai encore de place. Mais là, c'est fonctionnel. Puis je pense que tout est à sa place, je crois. » Mais effectivement, le puzzle aurait pu se faire dans plein de sens différents. Mais j'essaie de trouver la meilleure façon de l'assembler.
Ce qui est quand même cool avec un projet comme ça, c'est que, tu sais, une anthologie, par définition, ça va toujours être inégal. Il n'y a pas une anthologie parfaite. À moins peut-être qu'on pense à comme un film que c'est tout le même cinéaste qui a fait les anthologies. Je pense à Wild Tales, là, il y a quelques années. Ouais. Ça, c'est comme un autre type d'anthologie parce que c'est comme tout le même cinéaste. Mais c'est ça, une anthologie comme ça, de gens différents, par définition, tu sais, c'est inégal. Mais ce que ça permet, d'un autre côté, c'est d'en avoir un peu pour tous les goûts. Parce que, surtout quand on est dans le mode un peu, tu sais, vous, c'est de l'horreur, mais c'est aussi beaucoup de la comédie. Et, tu sais, Dieu sait que la comédie, c'est subjectif. Donc, c'est le fun aussi de voir, comme, différents trucs. Puis c'est clair que chacun va avoir un peu ses segments préférés ou ses segments qu'il va trouver le plus drôle, tu sais. Je pense notamment à un des premiers sketchs que c'est... Ça tourne beaucoup autour de phallus, puis de contamination, puis de fluide, puis de crousage, puis de trucs un peu...
C'est un réalisateur français. En fait, les deux réalisateurs français dans le projet, ils ont mis des graines dans leur segment. Je sais pas si ça vient avec leur humour, mais voilà, on avait deux fois des pénis, puis c'était des réalisateurs français.
Ça, c'est un type d'humour que ça passe ou ça casse. C'est...
Ouais, il y a des gens qui ont des gens qui m'ont dit qu'ils ont vraiment détesté ça. Puis même, un autre exemple, là, au milieu du film, il y a un segment ultra onirique, là, très poétique. Puis il y a des gens qui m'ont dit que pour eux, ça tuait le pacing. Puis d'autres qui m'ont dit qu'une chance qu'il y avait ce segment-là, parce que pour eux, c'était le plus puissant, le plus touchant. Puis donc vraiment, ça passe ou ça casse. Donc tu sais, au final, personne ne peut donner une note parfaite à ce film-là, mais tout le monde va en trouver pour son argent, d'après moi, comme tu disais. C'est ça que j'ai vu dans les commentaires des gens. Tout le monde avait des préférés à des extrêmes opposés. Puis on a eu des bons retours aussi. Les blogs d'horreur, là, dans le fond, il y a beaucoup de blogs qui suivent Fantasia. Puis on est allé lire les critiques. Puis overall, c'est vraiment fair. Là, c'est vraiment des critiques très fair. Puis très. Disons que tous les points négatifs qui sont notés, c'est des trucs que j'avais déjà conscience. Mm-hmm. Donc, j'ai pas eu de surprise comme « Oh my God, ça a vraiment pas passé. » Pourtant, moi, c'était mon truc préféré. Là. Ouais. Donc, ouais, c'est pour un projet casse-gueule comme ça, je suis assez content de la réaction après le film.
Donc, bravo. On espère que ça va justement continuer cette tournée.
Ben oui, puis en fait, là, on a un premier festival qui est confirmé. En fait, je vais au Mexique du 27 au 4 septembre.
Nice.
Donc, à Mexico City, il va y avoir un prochain festival. Puis après ça, il y a un autre festival que je peux pas annoncer, mais qui est en septembre. Oh. Donc, pour ceux qui sont peut-être à l'affût des festivals québécois, la programmation sort bientôt. Je peux pas dire c'est quoi, mais bon. Hein?
Bon, mais
peut-être prendre un guest.
Félicitations pour la clôture du FFM, Rémi Fréchette.
Non, c'est ça. Non, j'ai pas été annoncé sur le blog du FFM, ah, sur le Skyrock du FFM. Mais c'est ça, puis il y a un distributeur là, qui s'appelle Welcome Aboard qui nous ont pris en charge. Donc ça, c'est vraiment cool parce que pour vrai, je suis assez essoufflé après ce projet-là. Donc je suis vraiment content que le duo de Welcome Aboard embarque dans le projet puis qu'il ait décidé de nous épauler pour faire les envois à festival. Là. Ça me sauve des énergies que j'avais pu à mettre, là, disons.
Cool. Ben, parlant de films qui souffrent d'un manque d'énergie...
My God, on s'en fout!
Puis je pense qu'on aura vraiment pas la même opinion, toi et moi, Rémi, on s'en est parlé brièvement. Mais un autre film du festival que j'attendais beaucoup, c'est Tokyo Vampire Hotel de l'inimitable Sion Sono, le seul et unique, qui est en fait un remontage d'une série télé qu'il a fait pour Amazon Studios à la base. Et donc, ça, c'est la version cinéma, qui dure un bon 2h20. Je pense que la version télé, au total, c'était comme 4h, quelque chose comme ça, en segment de 20-25 minutes. Et Tokyo Vampire Hotel, là, c'est triste parce que je suis comme un des plus gros fans de Sion Sono. Mais là, j'ai franchement l'impression qu'il a juste trop de projets devant lui, puis trop d'opportunités, puis qu'il prend pas assez de pause. Si tu regardes sa filmographie dans les dernières années, ça explose. C'est comme une joke qu'il y a une année, tu sais, qu'à Fantasia, il y avait trois de ses films, tu sais, puis tout un peu dans des genres différents.
Ouais. Cette année-là, c'était ça a été ma découverte cette année-là, puis les trois, ben, il y en avait un qui était un moins bon, disons, que les deux autres, mais les deux... C'était Love
and Peace.
Love and Peace, ouais. C'était tellement bon, ouais. Avec la tortue géante.
Ouais. Hein. Puis il y avait Tag aussi.
Puis il y avait Tag la même année.
Ouais, très cool. Mais c'est ça, mais là, tu regardes sa filmographie, puis là, il enchaîne là, des séries télé qui sortent pas du Japon, des téléfilms qui sortent pas du Japon, des films qui sont pas encore sortis, ou qui sont allés dans des festivals, mais qui ont pas eu vraiment de grandes sorties, ou du moins pas à Montréal. Fait qu'il y en a dans l'eau qui sont très bons, justement, comme Tag, moi, je trouve que c'est un de ses meilleurs films, c'est 2015, quelque chose comme ça.
Ouais.
Mais là, je pense que peut-être, justement, le troisième film, là, que tu disais que c'était le moins bon des trois, Shinjuku Swan, qui était une adaptation de manga, a eu un énorme succès commercial au Japon, notamment, je pense, par le public qui avait lu le manga. Et là, il a fait une suite depuis. Et je pense que ça l'a un peu Je pense qu'elle a propulsé des rangs de cinéaste acclamé par les festivals à l'étranger à cinéaste commercial local.
Mais c'était pas mauvais, c'était juste que cette année-là, il y avait tellement pondu des chefs-d'œuvre. Ouais. Il y avait deux films incroyables, puis le troisième qu'on voyait, c'était le moins bon. Ouais. Mais c'était pas. Je m'en souviens très bien du film. Il y a des films qui, après quelques années, à Fantasia s'effacent de ma mémoire, là, mais je m'en souviens encore très bien, puis j'avais apprécié. C'était juste qu'il y avait peut-être pas la signature des deux autres.
Non, c'est ça, mais. Puis c'est ça, puis je pense que, tu sais, pendant tellement longtemps, il a fait genre des films à pas de budget, il a fait des films, tu sais, ça. C'est un peu... lui, il est poète aussi, avant d'être cinéaste, puis ça se ressent un peu dans sa démarche. Il y a un peu un certain je m'en foutisme, mais en même temps, un amour du langage cinématographique. Après justement avoir joué avec les mots, là, il joue avec les images. Puis il y a quelque chose, surtout dans son montage, je trouve, qui est assez intéressant puis inspirant, en fait, quand on regarde ses films. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a comme basculé un peu peut-être du côté commercial un petit peu trop, puis qu'il se met à tourner. Donc bref, on va revenir au film, hein? Tokyo Vampire Hotel, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de bric-à-brac, une relecture un peu du mythe de Dracula à la sauce Sion Sono. Ça va un peu dans tous les sens, il y a des grosses explications, mais dans le fond, c'est des MacGuffins, c'est vraiment des guerres de clans entre des vampires, une espèce
de... C'est simple. Il y a pas de... On se casse pas la tête pour ça. Puis, en fait, je me demandais surtout comment ça rentrait dans une série de 6 heures. C'est ça? C'est comme 6 épisodes?
En fait, c'est une dizaine d'épisodes de comme 20-25 minutes. Mais c'est des 25 minutes. Fait que je pense que c'est comme 4 heures au total.
OK.
Mais c'est qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de clans, il y a beaucoup de comme sous-histoires qui finalement aboutissent à pas grand-chose. À un moment donné, on est dans une espèce de flashback d'idylle entre deux adolescentes qui se découvrent un peu, qui découvrent peut-être une attirance pour le même sexe en Europe. T'sais. Puis finalement, toute cette section-là mène un peu à rien dans un sens, mais en même temps, dans un sens, ce film-là, c'est pas nécessairement un film où le scénario est important parce que toutes les mini-histoires, au final, ont peu d'impact. T'sais, c'est vraiment comme le film en soi, sa démarche, c'est d'y aller de scène en scène, de voir ses trouvailles un peu visuelles, son humour décadent. T'sais, une des premières images du film qu'on voit, c'est une espèce de vieux vampire, une vieille vampire desséchée, tout petite, là. T'sais, pis c'est des effets spéciaux un peu cheap, cheapette, cool. Là.
J'ai tellement aimé ça, ces trucs-là. Il y a comme l'espèce de maison aussi, les murs qui...
Ben c'est ça, l'hôtel en soi, finalement, comme un immense vampire. Là.
C'est une entité là, qui est comme liée à une vampire, là, qui est liée à genre la reine des vampires. Puis la maison peut saigner, il y a comme des gens qui sont pris dans ces murs. Là. Le visuel, l'univers, il est tellement trippant quand même.
Tu sais, il y a quand même... Et moi, il y a une ligne de dialogue dans le film qui, pour moi, résume... Ce film-là est peut-être un peu le cinéma de Sion Sono. C'est à un moment donné, t'as des employés de l'hôtel qui dirigent donc des hôtes vers leur chambre et ils passent dans un couloir. Puis sur les murs, t'as juste des comme plein d'armes, là, plein de katanas, de mitraillettes, de fusils, de tout ce que tu voudras, des battes de baseball. Puis là, t'as quelqu'un qui fait comme mais pourquoi c'est là? Puis là, l'employé fait juste répondre parce que c'est plus cool comme ça, tu sais. Puis ça, tu sais, c'est un peu ça. C'est un peu comme. Tu sais, il n'y a pas vraiment de raison, outre que on aime le cinéma pour ce que c'est, tu sais, en tant que geste, en tant que. Un peu comme un Tarantino, un peu comme, tu sais, une espèce de. C'est ça, une volonté de juste créer. Puis c'est un poète à la base, puis tu sais, des fois, un poème, là, ça n'a pas besoin d'avoir une signification autre que ça sonne bien quand tu le prononces, tu sais. Fait que j'ai l'impression que son cinéma, c'est un peu ça, tu sais, surtout pour ce film-là, peut-être pas pour tous ses films. Mais celui-là, on sent quand même que c'est un film dans un sens un peu inconséquent. T'sais, c'est juste un pur divertissement éclaté.
Ah, puis ça s'amuse, puis ça s'assume là-dedans. Puis ouais. C'est définitivement la force du film. Puis je sais que tu t'en viens sur le négatif, là, parce que pour moi, ce que tu dis à date, c'est tout des trucs assez cool. Là. Mais tu sais, il y a un moment où le film commence à tourner en rond, puis pour un film qui est basé sur une mini-série de 4 heures. Là, j'apprends que c'est 4 heures, mais pour un film qui est basé sur quelque chose qui est plus long, c'est étrange qu'un remontage tourne en rond à quelque part. Ouais.
Et même littéralement, parce qu'il y a combien de plans de couloirs d'hôtel que tu vois clairement que c'est les mêmes sets qui ont genre tourné dans notre angle. T'sais, toi, t'es réalisateur, je pense que t'es encore plus à même de déceler ce genre d'astuces. Là. Mais tu vois que vraiment, à certains moments, il y a des espèces de courses-poursuites dans les couloirs d'hôtel. Puis, tu sais, tous les murs sont comme en aplats d'une seule couleur vive, là. Puis, t'es comme... Tu sais, clairement, ils ont juste, genre,
réutiliser les décors.
Ouais, c'est ça. Ça finit plus, là, tu sais. Mais aussi, je pense qu'un autre problème du film, c'est que, slash de la série, du projet, c'est qu'on ne sait plus vraiment c'est qui le protagoniste de cette histoire-là. Parce qu'au début, c'est comme une femme à qui un peu, qui est un peu comme l'espèce de l'avatar du spectateur, à qui tout arrive et qu'elle découvre en même temps que nous un peu ce qui se passe. Le fait que ça, dans sa réalité, il y a des vampires qui ont des pouvoirs, etc. Mais rapidement, ce personnage-là se transforme et devient une espèce de vampire elle-même, mais comme dénuée de personnalité, puis elle se met à plus avoir de lignes de dialogue, puis un peu être tassée par le scénario, puis finalement, on se met à suivre quelqu'un d'autre qui comme un peu celle qui était venue un peu la protéger au départ.
Ouais, c'est comme si au milieu du au milieu d'Alice au Pays des Merveilles, c'était le lapin qui devenait le personnage principal. Là.
Ouais, c'est ça.
C'est vraiment ça. Là.
Puis c'est comme si le cinéaste lui-même s'est tanné de son protagoniste, tu sais.
Ouais, je suis d'accord.
C'est comme au courant de son écriture, il est comme fait « Bon, j'ai plus rien à dire, on va passer à quelqu'un d'autre. » Ce qui peut marcher, hein, tu sais, je veux dire, Psychose, Hitchcock, c'est un peu ça le génie, tu sais. Mais dans ce cas-ci, j'avoue que je trouvais ça dommage d'avoir passé autant de temps avec un personnage pour après, finalement... tu sais, la délaisser.
Mais, ouais, je suis super d'accord avec toi. Mais, tu sais, en fait, c'est que j'ai vu, moi, un autre What the Fuck Japan, là, que j'appellerais comme ça. Il y en a comme un par année que j'essaie de voir habituellement. Puis j'en ai parlé dans l'autre podcast, mais c'était Louder, I Can't Hear What You're Singing, Wimp. Un autre titre qui n'est pas possible. Mais j'ai vu ça, puis c'était vraiment pas focusé au niveau visuel. Il y avait des bouts qui se relâchaient un peu, où la folie diminuait. Mais... Sion Sono réussit quand même à garder sa folie sur un high, puis il y a une constance dans sa folie, dans sa son approche visuelle qui est assez éclatée. Il y a une constance là-dedans quand même. Il y a une vraie signature là-dedans. Donc j'ai quand même apprécié ça plus que l'autre film. Mm-hmm. J'avais peur que ça perde autant le focus que l'autre, mais c'est ça. Il est quand même haut là, dans mon top Vampire Hotel, Tokyo Vampire Hotel, mais ouais, je le sens que t'es un petit peu plus négatif que moi. Là.
Ben, faut dire aussi que si on s'en va, c'est vraiment un cinéaste que je suis depuis longtemps et que j'apprécie beaucoup. Puis c'est pour revenir un peu aux métaphores d'hôtel, tu sais, son Tokyo Vampire Hotel, c'est une place que je suis content d'avoir visité une fois, mais que j'ai pas l'impression que je vais rebooker une chambre de sitôt, tu sais. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est comme, tandis que d'autres ouais. de ces films, tu sais, puis c'est un projet qui ressemble, à plusieurs égards, ça ressemble un peu à Why Don't You Play in Hell, mais ce film-là, je trouvais qu'il était tellement plus maîtrisé, puis plus rythmé et conséquent, puis tu sais, c'est pas parce que tu fais de l'absurde que faut que tu délaisses nécessairement tes personnages, tu sais. Puis,
ouais,
ou comme Tag, tu sais, Tag, c'est vraiment un film aussi vraiment éclaté, tu sais, disjoncté, qui part dans toutes sortes de directions, où on finit par même plus être sûr de ce qu'est le niveau de réalité, tu sais, est-ce qu'on est dans un rêve, est-ce qu'on est dans un jeu vidéo, tu sais, les interprétations sont ambiguës, puis c'est voulu comme ça, mais on s'attache au personnage principal, puis elle est là du début à la fin, puis c'est un peu elle qui devient la pierre d'assise, tu sais, de ce film-là. Dans Tokyo Vampire Hotel, on dirait qu'il manquait cet appui-là pour vraiment avoir un engagement émotif, tu sais. Puis il y a tellement... Puis je pense que aussi que comme ça a été parti comme un projet de télé, j'ai l'impression qu'il y avait une certaine liberté puis une certaine aisance que peut-être qu'il n'y avait pas sur ses autres films, tu sais. Tu sais, une espèce d'Amazon qui donne un chèque en blanc, là, puis qui tu sais, puis là, tu dis, bon, ben j'ai encore une autre demi-heure, on va aller explorer, tiens, dans tel pays, on va aller faire des tournages dans une vieille cathédrale en ruine, puis ça va... On va faire un épisode avec ça, tu sais. Puis je vais pas faire le précédent d'intention, mais quand tu regardes le film, tu dis... Ouais, tu sais, il y a vraiment comme des morceaux qui appuient. Puis tu sais, pourtant, c'est un cinéaste qui a travaillé dans la longueur, là, tu sais. Love Exposure, qui est peut-être son meilleur film encore aujourd'hui, c'est un 4 heures. Mais c'est un 4 heures tellement mieux ficelé, où justement, les personnages, tu sais, tu t'attaches, il y a une quête qui fait du sens. Tu sais, c'est dès le départ, t'as le jeune qui veut chercher sa Marie. Puis du début à la fin, là, c'est vraiment une épopée, là... tu sais, qui bouleversante, mais tout aussi éclatée, tu sais. Tandis que là, t'as l'impression que, bon, tu sais, on a fait une espèce d'un travelogue, là, tu sais, il a shooté dans plusieurs pays, il a visité plusieurs genres, mais c'est ça, même pas juste plusieurs pays, plusieurs mythes, plusieurs, tu sais, iconographies, il pige un peu dans la pop culture, puis dans les mythes, puis notamment dans ceux des vampires. À quoi bon, finalement, tu sais, t'as un peu l'impression de...
Ouais, au final, c'est assez vide, puis... Ouais. C'est certain que c'est pas un film avec beaucoup de substance. Ça vise le shock value, t'sais, la scène d'ouverture. Il y a une scène d'ouverture dans un restaurant avec une tuerie qui est juste complètement gratuite, là. Mais c'est le shock value, puis on accroche le public, puis on va brasser le public, on va lui donner une bonne ride pendant la durée du film, mais c'est sûr qu'au bout du compte, il t'en reste pas grand-chose.
Ah, puis d'ailleurs, il y a probablement la scène de meurtre la plus... Pour moi, en tout cas, là, qui m'a le plus choqué depuis longtemps, là. Je pense qu'il n'y a pas un film qui m'a répugné comme ça au niveau de la violence depuis Brawl in Cell Block 99 avec Vince Vaughn, qui était comme...
Ouais, j'ai pas vu ça.
Hey, man, ce film-là, c'est vraiment trash. C'est le gars qui a fait Bone Tomahawk, là, puis qui a écrit le dernier Puppet Master. Là.
Oui, je sais.
Mais oui, dans Tokyo Vampire Hotel, je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, là, justement, dans cette scène de resto, il y a un meurtre avec une fourchette.
Ouais.
Puis c'est juste comme... absolument dégueulasse.
Ouais, c'est intense, c'est gratuit.
Oh
là,
mon
c'est...
Dieu.
On veut juste que ça soit dégueulasse, là.
Puis je sais que c'est, ça se veut, c'est censé être cool, genre, c'est censé être détaché de ça, là. Mais ce moment-là en particulier, là, j'étais vraiment genre... Puis moi qui aime ça, j'ai pas trop de problèmes avec la violence en général dans le cinéma, là. Mais ça allait loin, là. J'ai trouvé que...
Dans la salle, on l'entendait, là, les gens réagissaient, ça a vraiment bien marché, là, ce moment-là, ouais. Effectivement.
Fait que, ouais, à voir en festival, mais ce film-là, c'est vraiment, tu sais, je ferais un top 10 de Sion Sono qui serait pas dedans, là, t'sais.
Ouais, ouais.
Donc...
Ben, en même temps, il a fait comme 2000 films, là, je pense, durant les 15 dernières années.
Ouais. Donc, voilà, est-ce qu'il y avait d'autres films que tu voulais souligner de Fantasia, Rémi?
Ben, je peux passer vite sur un vieux film, en fait. C'est le film Wendigo de Robert Morin.
Oui.
Que j'étais vraiment content de découvrir, puis c'est... Ça arrive là, qu'à chaque année, il semble avoir un Robert Morin Fantasia. L'année dernière, il y avait le problème d'infiltration. L'année, je crois que c'était l'année d'avant, il y avait Requiem pour un beau sans cœur. Donc, à travers les rééditions d'Éléphant et ses nouveaux films, Fantasia a vraiment adapté le cinéaste. Puis Wendigo, je comprends pas que ça soit disparu, ce film-là, de la map. Il n'y a jamais eu de réédition. La seule version qui existait, c'était en VHS. La seule façon de se procurer ce film-là, puis c'est pas mal l'un des masterpieces de Robert Morin, d'après moi.
Oh.
Le synopsis, en gros, c'est basé sur Hearts of Darkness, qui est le récit à la base de Apocalypse Now. Donc, il a vraiment calqué sa trame narrative là-dessus, mais il l'a mêlé avec la crise autochtone d'Oka. Donc, c'est une équipe de journalistes qui partent en bateau puis essaient d'aller retrouver un Amérindien qui est parti au nord du Québec se construire un village avec une gang de rebelles autochtones. Puis, il y a des gens qui ont été tués. Ils se sont créés une petite armée, dans le fond. Puis, ils se cachent au nord du Québec. Donc, l'équipe de journalistes, ils remontent le courant pour essayer d'aller enquêter sur ce phénomène-là. Sur ce phénomène-là, mais en fait, cette crise-là. Puis c'est Guy Nadon qui tient le rôle principal du journaliste. Puis on balance entre de la fiction traditionnelle puis la technique qui est utilisée dans Requiem pour un beau sans cœur, qui est comme du POV, mais pas à travers une caméra, mais plutôt à travers les yeux du personnage. Donc t'es vraiment dans la tête du protagoniste. Puis t'entends la narration qui est la douce voix de Guy Nadon qui fait la narration quand t'es dans sa tête. Donc ça justifie vraiment, c'est une narration interne, comme s'il se parlait à lui-même. Donc c'est assez intéressant, autant au niveau formel que dans l'exploration des thèmes de Hearts of Darkness avec un mélange de notre culture. Vraiment une grosse surprise au festival. On dirait que à chaque fois que je creuse dans la filmographie de Robert Morin, je me dis que ça peut pas être meilleur que ce que j'ai vu déjà, ou ça peut pas être plus surprenant. Puis là, ben, il a encore surpassé toutes mes attentes avec ce film-là, où j'ai été épaté du début à la fin. Là. Vraiment, c'était un excellent film. Puis ça se rattrape sur la plateforme Éléphant. Donc, je crois que c'est y a une partie du catalogue qui est sur iTunes.
Ouais.
Et l'autre partie, il faut être abonné Vidéotron, je crois,
en fait,
pour avoir accès.
C'est ça, sur Écho sur demande, l'entièreté du catalogue est disponible, sauf les sauf les toutes récentes restaurations qui passent encore dans les festivals. Comme Wendigo, je ne sais pas s'il est déjà disponible, mais il devrait l'être bientôt sinon. Et une très grande partie du catalogue est également disponible sur iTunes, mais pas tous encore. Là. Mais juste pour revenir sur Wendigo, en fait, l'affaire, c'est que le film a été fait quand même en 1994, quand même très peu de temps après la crise d'Oka en 90.
Oui, exactement.
Moi, j'étais trop jeune à l'époque, tu sais, pour avoir comme eu conscience de ce film-là. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un film peut-être justement qui gagne avec le temps à être découvert, parce que peut-être qu'à l'époque c'était encore trop chaud comme sujet, puis personne n'avait vraiment le goût de comme aller voir un film là-dessus. Pas que nos relations soient que tout est réglé, bien au contraire.
On l'a vu cette année, là, mais avec en plus le film a été programmé avant tous les ce qui s'est passé avec Canada, là, avec les pièces de Robert Lepage, puis Canada qui a été annulé, puis le film avait été programmé avant, donc je pense que c'était pas prévu, mais on voit que le sujet est tellement encore actuel, c'est ultra surprenant que 24 ans plus tard, on a un discours comme ça qui est encore semblable à ce qu'il y avait à l'époque. Puis je suis assez d'accord avec toi que probablement que le film a pas eu le respect qu'il méritait, parce que après la crise d'Oka, les gens, il y avait des gens qui étaient crispés, puis peut-être qu'ils ont pas donné la chance au film qu'il aurait dû avoir, parce que c'est autant que c'est pertinent politiquement, autant que le film est divertissant, c'est vraiment bien fait, puis ça nous tient en haleine. Il y a des scènes de fusillade d'un bateau à la forêt avec des gens cachés dans la forêt. Tu sais, c'est vraiment particulier de voir un film fait comme ça au Québec.
Mais Robert Morin, on peut pas y enlever ça. C'est qu'il a toujours voulu gratter là où ça fait mal. Il n'y a jamais aucun sujet d'actualité qui lui a fait peur. Il a toujours été un peu... tu sais, une espèce d'artiste comme ça qui est vraiment une espèce de garde-fou de la société, là.
C'est toujours mis en danger, tu sais, avec un problème d'infiltration l'année dernière, où techniquement, il s'est dit « je fais des plans séquences ». Là, il a réutilisé partiellement les techniques qu'il avait explorées dans Requiem pour un beau sans cœur. Puis d'ailleurs, il y a même un genre de easter egg dans le film, à manier une télé, puis en background, on voit qu'il y a un bulletin de nouvelles, puis sont en train de rechercher le personnage de Gildor Roy dans Requiem pour un beau sans cœur. Fait que tu sais, t'as comme un Morin Universe, là, qui est comme formé avec ce film-là. Mais ouais, c'est ça, il se fait du fun avec le médium, mais il se met en danger, là. Une adaptation de Heart of Darkness, c'est un pari assez risqué, puis c'est de s'attaquer ça avec des nouvelles thématiques, des thématiques proches de nous. Il y a personne qui avait tenté ça, donc chapeau, là. C'est un gars qui continue de changer. On voit qu'il s'est jamais assis sur ses lauriers, puis il continue à performer, là. Très, très, très impressionné. Mais sinon, Paul, je veux peut-être revenir sur un film là, que j'ai accroché tantôt, mais je n'ai même pas parlé du film lui-même. Ouais. Mais c'est le film Monsieur Zoloc, que je vais résumer par ces deux mots-là. Yves Simondon, qui est un des grands de notre cinéma, qui est aussi oublié beaucoup dans son cinéma. Les gens s'en souviennent plus aujourd'hui pour comme le gars qui a fait l'appât il y a une couple d'années puis qui s'est planté royalement. Mais Yves Simondon, c'est un gars qui a fait des classiques du genre au Québec. Comme dans Le Vent du Dragon, entre autres. Monsieur Zoloc, c'est un documentaire, mais comme j'en ai jamais vu dans ma vie, ça suit une trame narrative. C'est un genre de détective qui va rendre visite à un super méchant qui veut contrôler le monde en apprenant plus sur la BD, parce qu'il pense que la connaissance de ça va... Je sais pas trop. C'est tellement tiré par les cheveux, là. Il y a comme... Dans le repère du méchant, il y a comme des personnages de BD qui sont réels, mais avec des têtes de mascotte qui se promènent dans le repère. Puis là, le détective se promène là, puis il interroge, dans le fond, le super méchant. Puis en parallèle de ça, il y a des entrevues avec les grands de la BD. Donc, c'est les créateurs d'Astérix, les créateurs de... C'est la BD francophone, là, en fait, là. Mais il y a Peyo des Schtroumpfs, il y a des BDistes québécois comme Gabouri qui est là, les créateurs de Red Ketchup. Tu sais, il y a vraiment juste le line-up là, de noms dans le film est assez impressionnant. Puis c'est des entrevues avec eux qui parlent de leur technique, de leur vision de la BD. La BD qui a souvent été un art qui a été considéré comme populaire. Puis un art qui a peut-être eu les mêmes problèmes que le cinéma parfois, là. Où, tu sais... quand on trouve un nouvel art, disons, dans les années, dans le dernier centenaire, il y a des nouveaux arts qui sont nés. En découvrant ces arts-là, ceux qui sont plus adeptes des anciens, ils vont comme renier ça parce que ça devient trop populaire, puis ça devient... c'est difficile à démocratiser.
Ouais, puis d'ailleurs, donc... ce film-là, on parle d'une sortie en 1983. 83, c'était peut-être pas aussi cool qu'en 2018 d'être un fan de bande dessinée puis de comics. Là, on a l'impression que c'est devenu la norme quasiment, tu sais, les nerds ont gagné finalement.
Ouais,
mais en 83, c'était vraiment pas aussi cool et branché de justement d'avoir ces albums cartonnés de bande dessinée sous la main.
Non, c'est ça, exact. Puis en fait, ça raconte tout ce qui est merveilleux à propos de la bande dessinée. Pourquoi c'est un art qui est respectable. Puis comment chaque auteur parle de leur démarche artistique, de comment ils voient ça. Qu'est-ce qu'eux, ils aiment comme bande dessinée, mais qu'est-ce qu'eux, ils aiment faire qui n'est pas toujours la même chose. Là. Ils consommeront pas exactement les mêmes trucs qu'ils font eux-mêmes. Donc ça explore très large, mais c'est juste formellement, c'est un film ultra intéressant de mêler une trame narrative et du documentaire. Les entrevues apparaissent dans des ordinateurs, puis à travers les discussions des deux personnages, de ce qu'ils ont appris sur la bande dessinée en faisant une enquête sur les grands auteurs. Donc c'est un film qui devient une bande dessinée en soi, ce qui prend ce côté-là cartoonesque. Puis qui avait été faite à l'époque pour la télé, mais on a appris que ce film-là avait été diffusé finalement au cinéma. C'est pour ça qu'il y a des copies en pellicule qui sont restées, des copies cinéma qui avaient été diffusées en salle, parce que le film avait eu tellement un gros succès à la télé qu'il y avait eu le succès nécessaire pour après ça être présenté sur grand écran.
Wow.
Donc c'était une superbe découverte. Ouais, vraiment, vraiment.
C'est tellement plus le parcours de nos jours, je veux dire.
Non, c'est ça.
Déjà, il y a pratiquement plus de films présentés à la télé, publique en tout cas. Puis
mais moi j'ai vu peut-être 25 films à Fantasia environ, puis Paul, je te la prends en onde, mais j'achève mon journal de bord annuel. Donc t'auras bientôt des corrections à faire sur quelques pages de texte, mais les gens pourront connaître mon avis global sur tous les films du festival là. J'ai fait un décompte comme à chaque année là. C'est la cinquième année que je fais ça là, mon journal de bord, puis en fait j'ai vraiment pas le temps, mais je me rends compte à travers les années que j'aime beaucoup revisiter mes tops pour voir qu'est-ce qui m'est resté en tête, qu'est-ce qui était... Tu sais, il y a des films, là, je retourne voir mes vieilles listes, puis là, je regarde, puis il y a des films que je me souvenais presque pas que j'avais vus à Fantasia, puis d'autres que je m'en souviens tellement bien que ça pourrait devenir dans mes films préférés à vie. Donc, c'est super intéressant pour... Juste pour moi, là, pour mon plaisir personnel, mais j'aime ça partager mes avis général. Donc, ça s'en vient, le petit top annuel, mon journal de bord annuel.
Juste pour le fun, comme ça, un film dans les 5 dernières années à Fantasia qui a été comme la grosse surprise, ça serait quoi pour toi?
Vite comme ça, il y a The Lure que j'avais adoré, là,
ouais,
le film de sirène.
Ouais, je me rappelle ça.
Ça, c'était il y a 2 ans. C'était une comédie musicale avec des sirènes. Il y a un Criterion qui est sorti, en fait, de ça, après sa tournée des festivals. Donc, tu sais, Criterion l'ont embrace dès qu'il... Tu sais, souvent, c'est des vieux films. Donc, ils l'ont pris d'assaut dès qu'il était disponible. Juste pour vous donner une idée de ce film-là. C'était un mélange de genres hallucinant qui m'a... Ça m'avait vraiment acheté à terre. Sinon, dans le côté ambiance de festival, puis film vraiment marquant, Greasy Strangler, c'est un film de party, là. Ce film-là, c'est... C'était unique, là. Napoléon Dynamite, mais avec du trash, là, mêlé avec trauma. C'est un film à regarder en gang. C'est un what the fuck, là, mais solide, là. C'est vraiment weird comme film. Puis je l'ai pas revisité depuis, mais je me souviens des gags, je me souviens du film en entier. Donc, ouais, ça c'est certain. Puis il y en a là, qui sont déréguliers, là. On t'entend parler de Sion Sono. Quentin Dupieux, j'ai découvert au moins 2 films à Fantasia. Ouais, à travers les années, il y a tellement de belles expériences que... C'est ça, là, c'est tous des classiques qui pourraient fitter dans mes films de vie, là.
Nice, nice. Et d'ailleurs, parlant de Quentin Dupieux, tu sais que son nouveau film sort très bientôt, dans un mois, au cinéma, cinéma du Parc, au Poste.
Ouais.
Puis, est-ce que tu as vu la bande-annonce de ce film-là?
Non, je ne l'ai pas vu.
C'est vraiment, vraiment particulier parce que c'est une bande-annonce créée pour le marketing.
OK.
Puis, tu sais, c'est deux acteurs, c'est Benoît...
Poulvord.
Et l'autre, je me rappelle plus son nom, je le connais moins. En tout cas, puis ça a l'air d'être seulement genre une espèce de huis clos pendant une nuit dans un commissariat, un détective et un accusé. Et la bande-annonce, en fait, c'est donc Benoît P. qui...
Poulvord. C'est vraiment ça, comme ça que ça se prononce,
qui,
je te jure.
qui rédige, dans le fond, sur sa machine à taper, et il lui dit, bon, alors qu'est-ce qu'on écrit? Un film de Quentin Dupieux, c'est ça, avec, bon, Benoît Poulvord, et toi. Tu sais, puis là, il est en train de décrire la bande-annonce, puis de décrire ce qui se passe. Fait que, tu sais, comme, tu vois rien du film, mais ils sont dans leur costume de personnage, puis ils sont dans le lieu du film. Donc, c'est très particulier comme bande-annonce. Un peu comme... Hitchcock faisait aussi ce genre de bande-annonce un peu distancié dans les décors du film, tu sais. Il était comme, attendez de voir ce qui se passe ici, vous allez capoter, tu sais.
Ah, mais j'ai hâte, c'est... Quentin Dupieux, c'est pour moi, c'est une valeur sûre. Là. Il y a peut-être un film que j'aime moins de lui, puis c'est Wrong Cop, ça, qui est un peu n'importe quoi. ce qui est peut-être pas, ce qui est peut-être pas trop grave. Là, c'est, il y a quand même des bons gags, puis des bons passages, mais c'était vraiment n'importe quoi, ce film-là. Il y a Marilyn Manson là, qui pop dans le film. Là. Il y a des trucs... Juste, mais tu sais, mais sinon, ces autres films, c'est tellement bon, là. Il y a de la substance en plus, puis une belle analyse de l'absurde, puis l'autodérision, c'est vraiment intelligent, en fait, comme humour. Puis même son dernier, ça allait dans le surréaliste, là, son film...
Réalité, comment ça s'appelle?
Réalité, c'est ça, exact. C'est masterpiece, là, ce film-là. Donc moi, je suis ouvert là, au poste, j'ai très hâte. Puis il est en train d'en tourner un nouveau aussi avec Jean Dujardin. Qui, j'ai compris, c'est un gars qui trippe sur son coat en je sais pas quoi, là. C'est un mec qui a comme un attrait envers son propre blouson, là. Je sais pas trop. C'est ça que j'ai entendu comme pitch, là. Mais ça a l'air absurde, là. Ah, ça s'appelle le dain.
Ah, OK. Super.
C'est ça.
Donc, c'est cool, Rémi, que tu sois fidèle au poste envers Quentin Dupieux. J'ai très très hâte de voir ça aussi également. Le film est sorti en France un peu dans... Pas vraiment un grand retentissement. Le film aussi est très court, il est comme 1h15. Je pense qu'on va avoir droit à une espèce d'exercice de style peut-être un peu limité, mais...
Comme Rubber peut-être, là?
Ouais, c'est ça, j'ai hâte de voir...
Mais tu sais, quand ça dure 1h15, là, tu sais, Rubber, là, c'est parfait, là.
Ouais.
C'est, l'idée est passée en 1h15, puis on a un long métrage, mais il n'y a rien qui... Moi, à mon avis, il n'y a rien qui s'étire trop. Le concept passe bien. On n'aurait pas pu en prendre plus. Il est super bien pacé. Là. Si c'est un 1h15 tête avec qui explore tout son sujet, c'est parfait. Là.
Ouais, ouais. Fait que Rémi Fréchette, c'était notre point de vue.
Ah, déjà?
Oui, effectivement. On va se quitter sur l'annonce du film d'animation de l'ONF, Le Mur, qui a l'air franchement intéressant, de Cam Christensen. Ça sort dans une semaine. Donc, c'est notre point de vue. Mon nom est Paul Andréau, j'étais avec mon collègue.
Et Rémi Fréchette.
Et Pascal Plante.
People always ask, how do you choose the subjects you write about? It doesn't work like that. I've been coming regularly to the Middle East. I recognize it. It answers to something in me. Over 4/5 of the Israeli state are in favor of building a wall along its borders. This $4 billion wall will be over 4 times as long as the Berlin Wall and twice as high.
They do it because they can. We have the right to render your life meaningless.
It works. 80% of terrorist attacks against Israel have stopped.
We are trapped in this paradox.
The wall is not around us. It's around them.
History has not followed the course we might have wished.
There are people here who have not seen a body of water for 15 years.
This wall is being built to keep people out. We found a way in.
I know as soon as I look, I'm never going to forget. How do you react to that?